Dans le magazine de ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alain Finkielkraut. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté d'être l'invité de Cannes en français. On ne vous présente plus, écrivain, philosophe, chevalier de la Légion d'honneur, académicien. Vous venez en Israël le 15 avril prochain et vous présenterez votre dernier ouvrage, Pêcheur de perles, non pas l'opéra, mais votre livre, qui paraît aux éditions Gallimard. L'Institut français d'Israël organisera deux rencontres avec vous pour deux conférences inédites autour de vos œuvres, de vos engagements et de ce dernier livre, probablement le plus personnel de vos ouvrages. Pêcheur de perles, vous aborderez les termes tels que l'amour, la mort, l'identité juive, Israël aussi, la nation française, la littérature, la nostalgie, des conférences qui auront lieu en français et seront modérées par Stéphanie Souffir qui est chargée du livre. Alors tout d'abord, vous êtes un défenseur d'Israël autant que vous le pouvez. Comment est-ce que vous avez vécu le combat post-sidération du 7 octobre ?
Bah écoutez, la sidération a été longue pour moi comme pour tout le monde, puisque effectivement, je le dis après beaucoup d'autres, c'était un gigantesque pogrom au cœur d'un pays créé pour que les pogroms ne puissent plus avoir lieu. C'était pas la guerre de Kippour, la surprise de la guerre de Kippour, parce que la guerre de Kippour c'était une guerre entre armées. Là, c'était dans le jardin, dans la maison. Donc tous nos repères ont vacillé et j'ai pensé à cette très belle citation de David Grossman. Tragiquement, Israël n'a pas guéri l'âme juive de son angoisse fondamentale, la sensation amère de ne pas être chez soi dans le monde. Voilà ce qui a été vécu en Israël et évidemment par les juifs de la diaspora. Et ensuite, il y a eu la relance immédiatement en France et dans le monde occidental de l'antisémitisme. Les actes antisémites ont explosé dès le lendemain du 7 octobre, c'est-à-dire avant l'offensive israélienne à Gaza. Et nous en sommes là aujourd'hui. L'antisémitisme se réinstalle et il ne vient pas de la populace, il vient de l'élite, il ne vient pas de l'extrême droite, mais de la gauche de gauche. Pour qui, en effet, les sionistes sont en fait des racistes, voire des néo-nazis. Voilà comment je vis les choses. Il y a aussi, évidemment, les événements eux-mêmes. Je les suis comme je peux. Je vais en Israël pour en apprendre davantage, donc pour parler un peu, mais pour écouter surtout. Je vais ouvrir l'oreille. Je sais que la société israélienne est divisée sur la marche à suivre. Moi, je défends Israël, bien sûr, face aux attaques, face à l'accusation inouïe, invraisemblable de génocide, et à tous ceux qui, depuis le 7 octobre, considèrent qu'Israël n'est qu'une entreprise coloniale, régime d'apartheid, tout cela m'affole complètement. D'un autre côté, je suis inquiet de voir toujours au gouvernement des gens comme les Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich qui semblent tirer du 6 octobre la leçon suivante: on ne peut pas vivre avec les Palestiniens, donc un nettoyage ethnique de grande ampleur est la seule solution. Je suis inquiet aussi de voir le Premier ministre dire qu'il ne veut ni de Hamasland, et ça c'est vraiment la moindre des choses. L'élimination du Hamas est une condition sine qua non de la survie d'Israël et d'éventuelles négociations de paix, ni simplement, Netanyahu ajoute, ni de Fataland. C'est-à-dire, alors, que veut-il ? Et quand j'apprends par exemple que l'armée demandait que l'aide alimentaire soit assurée laissé par l'autorité palestinienne, le premier ministre israélien a refusé. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais je lis à Haaretz, et dans un dernier numéro de Haaretz, il était dit que Netanyahou est l'agent de destruction d'Israël. Tout cela m'inquiète énormément, mais moi je pense que la défense d'Israël face à la menace qui pèse sur ce pays est nécessaire, elle n'est pas seulement légitime, elle doit être, mais d'un autre côté, j'ouvre les yeux et je ne me résigne pas à voir des extrémistes inqualifiables exercer une partie, même minime, du pouvoir.
Alors, le livre que vous avez rédigé, l'essai, est construit autour de citations. Ce sont les perles que vous êtes allé pêcher. Qu'est-ce qui vous a conduit à bâtir cet essai de cette façon ?
Écoutez, je ne sais pas très bien. Je feuilletais mes cahiers de citations. Vous savez, je les empile depuis plusieurs décennies. Ce qui fait d'ailleurs que je ne les retrouve plus, les citations que je cherche, tellement il y a de cahiers, il y a de carnets.
Il faudrait digitaliser
puis,
tout ça.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je suis malheureusement incapable de faire. Je suis un terrible handicapé informatique. Mais en tout cas, l'idée m'est venue soudain parce que j'ai fait, comment dire, j'ai fait une deuxième sélection. J'ai repris un cahier où j'ai mis les citations qui me foudroyaient, qui me donnaient le plus à penser, et je me suis dit, voilà, j'en choisis 15 ou 16 et je vais essayer d'écrire dans leur sillage ce qui a été pour moi une expérience sinon heureuse, du moins plus facile que d'autres livres où agissait sur moi la contrainte d'édifier une thèse ou de la défendre et de bâtir une démonstration. Là, je pouvais aller dans plusieurs sens. Écrire un livre, si vous voulez, rhapsodique, où en effet, il pouvait être question de l'amour, mais aussi de la civilité, de la mort, de l'école, de l'humour. Tout sujet qui m'habite, mais que, voilà, j'ai eu l'occasion, grâce à ce procédé, si vous voulez, de traiter dans le même livre.
Alors justement, vous parliez d'amour, le livre s'ouvre par votre dernière rupture amoureuse et surtout par les conclusions que vous en avez tirées. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de partager un événement si personnel ?
Écoutez, quand j'ai annoncé à ma femme que j'avais ce projet, elle était absolument furieuse. Elle ne voulait pas que quoi que ce soit de notre vie privée soit dévoilé. Et moi, je l'ai fait parce qu'en effet, je raconte en fait une rupture qui n'a pas eu lieu. Enfin, un jour, au début de notre histoire, elle m'a dit qu'elle me quittait. J'étais en effet envahissant, je pompais l'air, j'étais inquiet, etc. Et voilà, et puis les choses se sont arrangées, et surtout j'ai voulu, à travers cette histoire, dire deux choses. D'abord, que l'amour nous révèle, c'est l'expérience inouïe d'une aliénation meilleure que la liberté. Voilà, c'est-à-dire, il y a l'amour propre, mais l'amour, si vous voulez, l'emporte sur l'amour propre. On fait soudain, si vous voulez, on connaît la grâce, comme l'a dit Jean Kelevitch, de vivre pour un autre. Ça, j'ai voulu le dire, et puis j'ai voulu aller plus loin pour montrer la part que l'admiration pouvait avoir dans l'amour, parce que cette composante de l'amour n'est pas vraiment prise en compte par la littérature. Et je me suis dit, ben voilà, je vais apporter ma toute petite pierre à l'édifice, pour dire aussi, au bout du compte, que d'abord cette admiration, cet enchantement peut être absolument lucide, et d'autre part donc, que l'amour dans sa modalité la plus haute est un chemin de connaissance. Voilà toutes les raisons qui m'ont porté à transgresser fixée par mon épouse.
Voilà, j'allais dire, votre femme ne vous en a pas tenu rigueur.
Ben, c'est-à-dire que une fois que j'ai terminé ce chapitre, qui en effet le premier que j'ai écrit, ben je le lui ai lu.
Ouais.
Voilà. Et donc j'étais craintif, mais non, elle était contente, un peu rougissante, et voilà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé.
Alors vous dites vous-même, entre autres, que vous avez pu entrevoir le monde comme il va et surtout comme il ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela ?
Ben, je pense à une citation qui n'est pas dans mon livre, c'est de Walter Benjamin. La catastrophe, c'est lorsque les choses suivent leur cours. Voilà, on n'est plus dans le monde enchanté du progrès, mais dans le monde des processus. Et les processus ne cessent de suivre leur cours, et c'est terrible, si vous voulez. Brigitte Debray disait qu'on a changé de médiasphère, ce n'est plus la grassosphère fondée sur l'écrit, mais la vidéosphère, le monde des écrans. Ben, écoutez, j'ai du mal à croire que c'est un merveilleux progrès. Ça rend beaucoup de services, mais ça rend la transmission de plus en plus difficile. Et le monde comme il ne va pas, du moins en France, je ne sais pas ce qu'il en est d'Israël, c'est l'effondrement terrible de l'école. L'école républicaine à laquelle je dois tout et qui n'assure plus maintenant la transmission comme autrefois, où la culture même est totalement marginalisée. Le monde comme il ne va pas, c'est aussi une mutation démographique qui rend la France absolument méconnaissable, au moment même où on vous explique qu'il faut absolument entrer dans une société post-nationale. Mais une France méconnaissable, une France qui n'a plus droit à la continuité historique, est-elle vraiment agréable à vivre ? Voilà, je pose la question et malheureusement, j'ai la réponse. Voilà quelques exemples. Et puis aussi, le destin de l'humour. L'humour s'en va à mesure que sévissent sur toutes les radios les humoristes professionnels qui sont les tontons macoutes de la bien-pensance. Alors tout cela, voilà. Voilà quelques variantes de ce monde qui va de moins en moins bien.
Un monde qui va de moins en moins bien, mais vous qui venez bientôt en Israël, c'est quand même une bonne nouvelle. Avant de nous quitter, je rappelle l'événement qui aura lieu donc le lundi 15 avril à 19h30 à Tel Aviv, au centre de Neve Scherter. À mon avis, c'est à Neve Tzedek selon l'adresse. Et à Haïfa à 19h30 aussi, le mercredi 17 avril, vente et signature sur place. Alain Finkielkraut, le mot de la fin ?
Ben, le mot de la fin, c'est que je suis très très heureux de venir en Israël. Vraiment. Je ne voyage pas beaucoup parce que j'ai des problèmes de dos, etc. Mais je suis impatient. Il y a plus de 10 ans que je n'ai pas été en Israël. D'ailleurs, j'ai décidé d'aller à Haïfa parce que j'allais toujours entre Tel Aviv et Jérusalem. J'ai voulu revenir à Haïfa parce que vous savez, j'avais 11 ans lors de mon premier voyage. Et là, on prenait le bateau.
Oui, j'ai
pris le Théodore Herzl. Donc, j'ai débarqué au port de Haïfa. Et je suis reparti de Haïfa par un autre bateau qui s'appelait le Jérusalem. Et puis, je sais que Haïfa est une ville étonnamment multiculturelle. Hein, 30% d'étudiants arabes à l'université de Haïfa. Donc je veux ressentir, si vous voulez, la vie en Israël et connaître aussi des joies simples. Je vais ouvrir l'oreille, bien sûr, je vais demander des choses, je verrai des gens de tous bords ou presque, mais je vais aussi manger des falafels. Et vous rendez compte, c'est merveilleux de manger des falafels en se promenant dans les rues de Tel Aviv ou de Haïfa.
Je suis entièrement d'accord avec vous et je vous souhaite d'apprécier le falafel qui coûte 12 shekels, pas celui de 52, parce que c'est effectivement les meilleurs dans la rue, en marchant et en se promenant. Vous aurez, je l'espère, le temps agréable. Merci beaucoup Alain Finkielkraut pour cet entretien.
Merci.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir, madame.